Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver jeudi 9 juillet. Bonjour Gilles Danseman.
Bonjour Valérie.
Bonjour à vous, bonjour à vous auditeurs de Sud Radio, tout va bien, certains d'entre vous sont peut-être déjà en vacances, profitent du beau temps, on est ensemble pour le 10h midi, on va parler Fort Boyard, c'est là qu'on sent que les vacances arrivent, quand Fort Boyard reprend, c'est un signal très clair, donc on aura la productrice de l'émission avec nous, Alexia Laroche-Joubert, qui va nous raconter les coulisses de cette saison un petit peu particulière, et puis on aura le docteur Jean-Michel Cohen, toutes vos questions sur les bonnes habitudes à prendre pendant l'été et puis également avec nous Élodie Garaumont, pour parler yoga puisque beaucoup de Français se sont mis au yoga pendant cet été.
Oui, personnellement, je fais le lotus assez régulièrement. Voilà.
Très bien. Et je ne sais pas comment s'appelle la position où on lève les pieds en l'air. donc Élodie Garaumont, donc la fondatrice du Tigre Yoga, sera avec nous pour également nous parler de cet engouement pour le yoga des Français et puis de tous ces clubs qu'elle a ouverts et surtout de cette nouvelle pratique en ligne puisqu'effectivement le coronavirus nous a donné d'autres habitudes. Voilà. Alors on va commencer avec les audiences d'hier soir, en tête TF1 pour Prodigal Song, ça doit être une chanson d'ailleurs, 3 182 000 téléspectateurs, c'est 16% de part d'audience, c'est sans surprise, c'est pas c'est plus que la semaine dernière, mais c'était pas un score génial. Deuxième position, France 2 avec la suite de la saga L'Ami Prodigieuse, un peu plus de 2 millions de téléspectateurs. Le Monde de Jamy, 2 millions téléspectateurs, c'est pas mal, 10% de part de marché.
Ouais, c'est un inédit.
Mais c'est quand même moins que Le Village Préféré des Français, mais qui avait un peu cartonné. Et puis voilà, notez le bon score de TMC, 782 000 téléspectateurs pour le magazine 90 minutes enquête, c'était sur Gilles.
Les nudistes.
Voilà, les naturistes.
Ils faisaient du yoga nu.
écoutez, ça, comme quoi les sujets sur le naturisme, ça marche plutôt bien, ça marche toujours. Absolument. Qu'avez-vous regardé à la télévision hier en ligne avec nous? On a une auditrice, Caroline, qui est là. Bonjour Caroline.
Bonjour à tous.
Bonjour,
bonjour.
On vous écoute.
Bien,
alors
écoutez,
vous avez regardé quoi?
Je faisais partie des 2 millions de téléspectateurs, je regardais Jamy, la 3.
Ah.
Voilà, sur
vous
la canicule. J'adore, oui, cette émission, ces reportages, c'est très bien expliqué.
Ouais.
Vraiment, très bien fait. Je me suis régalée.
Vous avez appris des choses,
ah,
justement,
oui,
dans cette émission d'hier?
Ah, tout à fait. Mais déjà, c'était le début quand même assez inquiétant par rapport au réchauffement climatique. Mmh. Et ensuite, porteur d'espoir grâce à tous les réseaux d'eau sous terre, n'est-ce pas? Donc vraiment, je me suis régalée, très, très variée, comment s'occuper des animaux pendant la canicule, nous,
des
bien
bons
sûr.
Conseils et, ah,
très
et bons diversions,
conseils.
Très didactique.
Et vraiment varié et très enrichissant, oui.
Eh ben, j'espère que Jamy nous écoute. Merci de nous avoir appelé, Caroline. Vous nous appelez d'Avignon. Il fait beau, Avignon?
Ah, super beau, très beau.
Super beau. Ouais. Bon, profitez-en bien. Merci de nous avoir appelé. Gilles, on passe au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie, direction du 100 au 126 rue de l'Université à Paris. Vous savez ce qu'elle est cette adresse? C'est l'Assemblée nationale. Et Gérald Darmanin répondait aux questions des députés et il a fait un point sur la laïcité.
L'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Il faut combattre toute forme de communautarisme. Mais il me semble, madame, que le ministre de l'Intérieur est également le ministre des cultes. Et qu'en France, la laïcité ne veut pas dire la négation de cette liberté des cultes. Et il me semble que vos propos sont un petit peu caricaturaux tout en étant très fermes. Caricaturaux. Je vois que vous suivez. Mon grand-père, priez Allah et portez l'uniforme de la République.
Pour la première fois, Éric Dupond-Moretti s'est aussi prêté aux questions au gouvernement. Alors, pas de faute d'orthographe pour lui, mais il a été quand même chahuté.
Je vous en prie, C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première, mais...
S'il vous plaît.
Mais laissez-moi... Monsieur le député, j'ai un sens aigu du contradictoire et du respect de la parole de l'autre. J'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. Oh, pardonnez-moi, on ne juge pas... Monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait.
Je sens, Valérie, que Dupond-Moretti va être souvent dans mon zapping. C'est une petite aubaine pour moi, cette nomination. Et puis, Olivier Véran, le ministre de la Santé, lui a remis à leur place des députés qui chahutaient.
Monsieur le député Patrick Hetzel, appelez un chat un chat. Dites que vous êtes contre la possibilité que nous voulons donner aux couples de femmes, aux femmes seules, de pouvoir avoir des enfants et une famille. Utilisez des arguments de fond, monsieur Hetzel. Messieurs les députés, je vous demanderai à minima de remettre votre masque quand vous criez. Pensez à votre groupe, ne criez pas un cluster dans l'Assemblée nationale.
Hier, notre Premier ministre Jean Castex répondait aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur BFM.
Dernière question. Vous êtes fier de votre accent ? Dites-moi.
Tu sais ce que je réponds à soi, mais j'ai un accent, moi. Je suis fier de mon accent. Je suis ce que je suis. Vous savez, j'ai toujours basé ma vie tout court et ma vie politique en particulier, qui là vient de prendre un nouvel essor, sur la sincérité. Il faut être ce qu'on est. C'est pas plus compliqué que ça.
À la sortie des questions au gouvernement, Valérie, je crois que Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise n'apprécie pas l'accent et la bonhomie de Jean Castex. Écoutez bien, c'est très violent.
J'ai trouvé ça pitoyable. C'est assez pénible à supporter, quoi, parce que les mots poussent entre les arbres et les arbres entre les mots. Hein. Donc il est là, il parle à deux à l'heure pour dire des banalités. Alors, soit on le prend mal et on dit mais il se moque de nous. Soit on se dit, bah, c'est le maximum dont il est capable.
Sympa. C'est très violent, en effet. Ouais.
Aujourd'hui sort le nouveau titre de Renaud, Corona Song. Apparemment, le confinement l'a inspiré, ou pas. Allez, Paul, tu m'en remets une.
Coronavirus. Connard de virus. Elle débarquait un jour de Chine. Retourne-y quand il confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI. Je me cogne sans cesse Arlette Chabot ou la pauvre Roselyne Bachelot. J'en peux plus d'être planté chez moi. Je veux voir le monde, comment il va.
Bah, moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont été plus inspirés durant tout le confinement qu'on a passé dans ce zapping, que cette Corona Song.
Mais il défend le professeur Raoul dans cette chanson. Absolument. Allez voir la chanson, sur les réseaux.
Il y a plus de Corona que de Song, hein, pour moi.
Hein. Pas du tout. À un moment, il parle
de ses bistrots qui ont été fermés.
Il boit de l'eau, effectivement. Je crois
qu'il a
réussi à tenir. Bonjour, Alexia Laroche-Joubert.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bah oui, ça me fait plaisir de voir comme ça. J'adore voir les intérieurs des gens.
Voilà, rassurez-moi,
vous ne vivez pas avec une pancarte Sud Radio derrière vous, Valérie.
Absolument, c'est si. Vous. Tous les matins, j'ai ma pancarte Sud Radio chez moi. Je l'ai dans mon salon. Je vis avec Sud Radio. Matin, midi, soir, la nuit, même dans ma chambre. Voilà. Bon, je vous demande comment vous allez, parce que vous avez été une des premières à contracter le coronavirus et à l'avoir fait savoir. Vous n'avez pas eu de séquelles?
Non, j'ai pas eu de séquelles. La seule vérité sur cette maladie, qui est liée à mon expérience, parce que j'ai eu la chance de pas l'avoir très forte, c'est qu'elle dure très, 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 très longtemps. Voilà. Et que moi, j'ai commencé à récupérer mon souffle, je pense, 90 jours après.
Ah oui, c'est très, très long. Oui.
Très, très long.
Alors, vous êtes allé sur le fort quand même, voir le tournage de Fort Boyard ?
Bah, évidemment. Déjà, parce que c'est un plaisir d'enfant. Moi, j'ai toujours l'impression de rentrer dans mon téléviseur quand je vais sur le fort. Et puis, il y a un autre élément, c'est que, mais on va sûrement en parler, on a dû mettre en place des gestes barrières et organiser le tournage. Et que c'était important pour moi de montrer aux équipes que je les soutenais, parce qu'ils ont fait énormément d'efforts justement pour respecter ces gestes barrières. Tout simplement parce que l'émission n'étant pas assurée, si on avait eu un cas de coronavirus, dans ces cas-là, ça voulait dire l'arrêt total du programme. Donc, ils ont vraiment joué le jeu et je voulais les féliciter personnellement.
Donc, Fort Boyard revient, pardon. Finalement, les assurances ne vous ont pas suivi ? Parce que vous aviez réclamé une assurance ?
Non, alors, enfin, quand j'ai réclamé, alors, les assurances, j'ai pas réclamé des assurances, j'ai dit qu'on n'était pas assuré parce que les assureurs, bah, donc, ouais, dès qu'il y a un souci, évidemment, c'est Courage Fillon. Donc, ils sont partis et a été mis en place un fonds de garantie pour protéger et assurer le cinéma, la fiction et les documentaires. Et le flux, c'est-à-dire les programmes comme Koh-Lanta, comme Fort Boyard, comme The Voice, n'ont pas été concernés par cette aide. Et donc, j'ai vraiment cherché à mobiliser les pouvoirs publics. On espère que ça va aboutir parce qu'il n'y a pas de raison que nos genres de programmes sur lesquels on prend des risques et qui avons assuré, en l'occurrence, les audiences en live sur les chaînes de télévision pendant la période de confinement, ne soient les parents pauvres du secteur du ministère de la Culture.
Alors, Fort Boyard revient samedi. Je disais que ça annonce les vacances. Quand on nous dit que Fort Boyard revient, c'est que, bah voilà, c'est comme Noël le 24 décembre. Là, on est sûr que c'est l'été. Donc, un tournage qui a été, vous venez de l'évoquer, quelque peu modifié, puisque normalement, vous tournez plus tôt dans la saison. Pour cause de coronavirus, ça a été reporté. Vous avez dû adapter même certaines des épreuves. Racontez-nous un petit peu ce Fort Boyard 2020.
Alors, il y a la partie sur Fort Boyard qui est off, c'est-à-dire tout ce qui se passe en coulisses, où justement on a fait une gestion d'équipe et on a bénéficié d'un truc qui peut paraître bizarre, c'est qu'on est quand même à un lieu de tournage en extérieur, donc qui est plus protégé que les lieux en intérieur, et on a des cellules, et donc on a réparti les corps de métier pour respecter les gestes barrières dans les cellules, avec tout un process aussi sanitaire fait en concertation avec nos salariés. Après, il y a ce que les téléspectateurs vont voir, et c'est vrai que pour respecter les gestes barrières et ne pas avoir un programme où constamment vous avez des gens, des candidats masqués, on a travaillé sur des plateaux avec Olivier, où on respecte les distanciations.
Olivier Mine.
Oui, Olivier Mine, pardon, les distanciations sanitaires. Ce qui fait que quand on voit les fameuses courses, vous savez, dans les coursives de Fort Boyard, là, pour le coup, ça ne se fera pas en équipe, ça se fera en individuel. Donc, on envoie le candidat avec passe-partout qui, lui, est masqué à son épreuve. Et puis, il y a quelques autres petits aménagements, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des épreuves signatures de Fort Boyard qu'on ne retrouvera pas cette année, comme la boue, parce que là, évidemment, ça, c'est une épreuve de contact.
C'est un corps à corps.
Donc, c'était un corps à corps, donc c'était compliqué de le faire. Et puis, il y a certaines épreuves qui ont été réaménagées pour pouvoir être jouées en solo.
Et le père Fouras, qui a plus de 70 ans, vous avez pris quand même le risque de le mettre dans le tournage?
Alors,
parce que c'est une personne à risque.
Alors, le personnage est en effet assez âgé. Heureusement, son interprète l'est un peu moins. Non, alors c'est vrai qu'on a été très inquiets à un moment, à l'époque où Macron a fait des déclarations sur des tranches d'âge, parce que Fort Boyard, c'est une grande famille. Il faut savoir que ça fait 31 ans maintenant à l'antenne. Donc, évidemment, les équipes qui sont avec nous, elles ont démarré, elles n'ont pas démarré à 10 ans. Donc voilà, il y a des personnes qui pouvaient être concernées par ces déclarations. En l'occurrence, c'est revenu à la normale, mais c'est vrai qu'on a particulièrement protégé nos animateurs, mais je parle aussi de Willy, de Delphine, d'Olivier Mine et évidemment du père Fouras, avec un isolement par rapport au reste des équipes, tout ce qui concerne le maquillage, alors qui est très important pour le père Fouras. Et les maquilleuses avaient un process très particulier. Enfin voilà, on a beaucoup travaillé avec eux pour qu'ils se sentent rassurés et puissent proposer aux enfants et aux plus grands un programme de qualité. Et j'avoue que je félicite les équipes d'ALP parce que, comme vous le disiez, on a démarré plus tard l'ouverture du fort et on a produit extrêmement rapidement en apportant le même niveau de nouveauté que les années précédentes. Donc, pour les enfants, le programme sera un grand moment de divertissement complètement et avec des gestes barrières indolores.
Et ça n'a pas été trop compliqué de rassembler justement tous les participants, tous ceux qui vont être soumis aux épreuves, d'arriver à les rassembler à une date, puisque c'est des tournages qui se préparent longtemps à l'avance. Tout le monde a réussi à se libérer pour le tournage. On va évoquer quelques noms. Vous allez avoir dans celle qui vient, c'est Clémence Bottineau, Camille Serve, Baudère, Claude D'Artois, le célèbre Claude de Koh-Lanta, Tom Leb. Tous ces gens-là donc, se sont rendus disponibles pour venir.
Oui, ce qui a été fantastique en fin de compte, c'est que c'est l'un des premiers programmes de divertissement qui reprenait ses tournages. Et il y avait une forme d'enthousiasme des personnalités, des artistes, de montrer qu'ils étaient aux côtés des Français pour les divertir cet été, au sortir de la période de confinement. Donc, en plus, ils ont vraiment été très sympas parce qu'on les a décalés. On devait tourner un moment avant, et on les a redécalés. Ils se sont réorganisés. Donc, j'avoue que je les remercie beaucoup d'apporter, qu'ils apportent le soutien.
La productrice que vous êtes, vous allez bien nous faire un programme avec Claude. Claude est devenu une vraie star après Koh-Lanta. Je suis sûr que vous y pensez.
Claude est un de nos grands aventuriers. C'est vrai qu'on a très envie de travailler avec lui et c'est vrai qu'on y réfléchit ensemble.
Il s'est blessé sur le fort ?
Il a eu un petit problème de doigt. Alors, vous allez le voir sur l'épreuve, il a une petite chute sur le côté. Alors, l'avantage, c'est qu'il est costaud de nature. Hein, et quand on vous avez fait plusieurs participations à Koh-Lanta, on peut dire que voilà, vous endurez la douleur probablement différemment des autres. Ouais. Et puis, voilà, tout va bien. Il a été strappé, je crois. C'est comme ça qu'on dit.
C'est un peu la honte, quand même, de se blesser sur Fort Boyard quand on a fait Koh-Lanta.
C'est parce que je pense qu'il était moins concentré que, justement, sur l'épreuve de Koh-Lanta. Comme quoi, Fort Boyard, ce sont des vraies épreuves.
Absolument. Parlez-nous de Cyril Gosbeau.
Ah, ben alors ça, c'est une très jolie histoire. parce que, en l'occurrence, Cyril, qui est présenté, qui est interprété
Cyril
par
Ferraud.
Cyril Ferraud.
Cyril
Ferraud. Il a une très jolie histoire avec le fort, puisqu'il était stagiaire sur le fort, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, et qu'il a un attachement pour ce programme très important, puisque d'ailleurs, il a participé plusieurs fois en tant que candidat. Et à un moment, les équipes d'ALP, Alexandre Arède, à la direction des divertissements de France Télévisions, s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose ? Et ce qui est fantastique avec Cyril, par ailleurs, on produit la carte au trésor sur France 3, il a un humour et il arrive à se moquer de lui-même en exagérant des choses de lui-même et il crée un personnage d'animateur narcissique et complètement…
Une sorte de Ken.
Une sorte de Ken auto-centré avec des vestes à paillettes qui n'en a rien à fiche des candidats qui sont devant lui et qui va un petit peu les martyriser, qui est à mourir de rire.
Et du coup, vous avez mis Francis Lalanne derrière, alors qu'il faisait des chansons super pour Fort Boyard. Ses chansons étaient tellement fortes. Alors, vous avez vu, il vous a menacé de faire une émission lui tout seul. Hein.
Oui, alors c'est tout le charme et la difficulté de Francis. C'est que je pense que le personnage de Narcisse lui allait assez bien, parce que je pense qu'il était assez narcissique, et que donc il ne comprend pas qu'il interprétait un personnage du fort et que ce n'est pas Francis Lalanne. Donc voilà, écoutez… ça se réglera ou ça se réglera pas, peu importe, mais en l'occurrence, son contrat, il l'a probablement, il devrait le relire avec un avocat, est assez clair.
On va retrouver également Willy Revelli, vous l'avez évoqué. Willy Revelli, alors moi j'ai vu un extrait où il fait, il y a une épreuve où la pauvre Clémence Bonino est en train de manger un piment, il y a une gradation dans les piments et elle tombe sur l'un des piments qu'elle doit manger les plus épicés. Willy Revelli qui sera moins à la cuisine cette année, c'est ça ?
Alors, Willy, il se passe une histoire que vous avez sûrement notée, c'est qu'il a osé ouvrir son propre parc d'attractions et devenir le directeur de Boyarland. Et vous savez, le père Fouras a très peu d'humour. Et donc, il a considéré que c'était un crime de lèse-majesté et il a décidé de fermer son restaurant. Et donc, Willy a dû trouver, tout espiègle qu'il est, d'autres solutions pour martyriser nos candidats et prouver son art culinaire autrement, on va dire.
Et puis, il y a…
Gilles.
Oui, et puis, moi, je voulais vous poser une question. La semaine prochaine, il y a une conférence de presse pour le nouveau Koh-Lanta. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en avant-première, avant de le dire aux autres journalistes, sur le Koh-Lanta qui va arriver sur TF1 ? Faites-nous un petit scoop.
Alors, comme vous savez, vous avez dû le remarquer, je ne m'exprime jamais avant la conférence de presse.
C'est pour ça que je tente.
Vous avez raison, mais je laisse toujours évidemment la primeur à celui qui l'incarne depuis presque 20 ans, c'est-à-dire Denis Brognard, et à TF1 qui le diffuse. Après, moi, je suis au service de ces gens-là et je fais, je me débrouille. Vous faites remarquablement bien votre métier.
Un petit truc, non, même pas une petite annonce.
Il y a une première aussi. En tout cas, il y a une première sur Koh-Lanta qui est un exploit. Pour la première fois, en effet, il va y avoir quatre équipes.
Quatre équipes. Ah, bon. Petite info. Vous avez jamais eu envie de participer à Fort Boyard? Vous l'avez fait ou pas?
À Fort Boyard, bien sûr, j'ai été. D'ailleurs, quand j'ai pris la direction de la société ALP qui produit Fort Boyard, je leur ai dit, vous avez de la chance, vous êtes c'est la première présidente qui a été candidate sur le Fort.
Je ne me souvenais pas de ça.
Ouais, j'ai été, j'ai été sincèrement assez nulle, mais je me suis beaucoup amusée.
Quelle épreuve
il y a toujours
fait,
autant de gens. Ouais, pardon.
J'ai fait la balançoire autour du fort, j'ai fait le tuyau, qui est une épreuve qui n'existe plus, avec des rats. Voilà.
Et vous êtes vous êtes toujours très sollicité par des personnalités pour participer?
Oui, il y a un attachement. Il faut dire que c'est le programme. Je pense qu'il y a plein d'acteurs, chanteurs, etc., dont les enfants se foutent royalement de leur carrière. Mais il suffit qu'ils leur disent « je vais aller sur le fort » et là, d'un seul coup, ça devient des héros. Donc, beaucoup, beaucoup de nos invités le font aussi pour leurs enfants.
Alors Valérie l'a jamais fait, hein, je vous dis ça comme ça au passage.
Non, mais je pense que je serai encore plus nulle. Je pense que je serai encore plus nulle que vous,
c'est
Alexia.
C'est ça qui est drôle.
Vous savez qui l'a fait, c'est Roselyne Bachelot.
Oui, c'est vrai.
Mais il y a 2 ou 3 ans, voilà. Donc j'ai martyrisé notre ministre de la Culture, ça fait beaucoup rire.
Oui, elle va peut-être vous en vouloir, du coup.
Non, je crois qu'elle a passé un bon moment.
Oui. Bon, allez, ça l'a amusé. En tout cas, on retrouve avec grand plaisir Fort Boyard samedi prochain et pour tout l'été avec de nouvelles épreuves. Toujours Olivier Mine aux commandes et puis le même plaisir,
Claude,
vous disiez, d'enfant. Et puis Claude, samedi, absolument, Claude, le héros de la France.
Ouais, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on va à bientôt et bon courage.
À bientôt. Merci à vous. Merci Alexia Laroche-Joubert. On se retrouve nous dans un instant pour les bonnes résolutions de l'été. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous, les mots se bousculent, avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et entre 10h30 et 11h, eh bien, ce sont les bonnes résolutions de l'été. Et pourquoi pas vous mettre au yoga, Élodie Garamond, bonjour.
Bonjour Valérie.
Vous êtes la fondatrice du Tigre Yoga Club, on vous connaît bien sur Sud Radio, vous intervenez régulièrement. Moi j'avais envie de revenir avec vous.
Et je vous aime beaucoup.
Très bien. Et je voulais revenir avec vous sur ce qui s'est passé pendant le Covid. Vous avez été obligée, comme pratiquement toutes les salles, de fermer physiquement, mais vous avez diffusé des cours sur Internet et on a remarqué qu'il y avait un véritable engouement pour le yoga.
Oui, absolument. Il y a un véritable engouement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de procrastiner pendant le confinement, qui ont eu le temps de se mettre à la méditation, au yoga, mais aussi bien qu'elle
Il faudrait que vous bougiez un petit peu, Élodie, parce qu'on vous entend mal.
Finalement.
On ne vous entend pas du tout, Élodie. Il faudrait que vous vous arrêtiez. On va marquer une pause, on va essayer de vous retrouver dans un instant parce que la liaison est très mauvaise. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Voilà, désolé pour cet enchaînement de pubs, mais on avait un petit problème technique. On retrouve donc Élodie Garamond avec nous, fondatrice du Tigre Yoga. Oui, nous parlions donc de cet engouement pour le yoga qui s'est complètement révélé pendant le confinement. Donc comment vous l'expliquez cela?
Je pense que le yoga, la pratique du yoga à la maison a levé beaucoup de freins psychologiques à la pratique. Il y a énormément de personnes qui ne veulent pas pratiquer parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas assez souples, qu'elles n'ont pas le bon legging, qu'elles n'ont pas les codes. Et que finalement, pratiquer à la maison, ça retire le regard des autres sur soi et donc ça retire son propre regard et son propre jugement. Et finalement, c'est plus facile parce qu'on le fait à son rythme, dans le respect des limites de son propre schéma corporel. Et ça fait du bien, quel que soit son corps et quel que soit son look.
Mais pourquoi le yoga? Alors, les cours de sport ont aussi connu un grand succès via la vidéo. Mais le yoga en particulier, qui est, on le rappelle, je ne sais pas, vous devez savoir mieux que moi, de quand date la pratique du yoga?
Le yoga a 3000 ans.
Pratique millénaire.
Oui, Bah, le yoga, c'est quand même, c'est une pratique millénaire qui, au départ, est attachée à une médecine qui est la médecine ayurvédique et qui est une médecine préventive. Donc, le yoga prévient des maladies et permet de prendre soin de son corps. C'est pas considéré comme un sport. C'est considéré comme une discipline, une philosophie, un art de vivre. Et cet art de vivre, il a énormément de bienfaits physiologiques qui sont accessibles à tous parce que on va très vite retrouver un sommeil plus apaisé, on est plus calme, on a une meilleure digestion, on a moins mal au dos. Donc, vous savez, tous ces petits maux du quotidien dont on s'accommode et il y a tellement de gens qui vivent avec comme si c'était des fatalités, alors qu'en fait, on peut agir dessus. Et à travers le yoga, le fait de réapprendre à respirer, de réapprendre à se poser calmement avec soi-même, de se connecter à l'intérieur de son corps, on dénoue finalement toutes les zones de tension qui créent ces malaises et ces maux physiologiques.
Alors, vous comprenez que certains disent que ça agace. Je vois Corinne, une auditrice, qui dit « Moi, je n'ai jamais pu faire de yoga, ça me fout les nerfs au bout d'un moment ».
Alors, je comprends très bien. Déjà, il faut savoir que parler de yoga dans ce sens-là, c'est comme parler de la danse. C'est comme si vous disiez, moi, la danse, ça m'exaspère. Mais de quelle danse on parle? On parle de la valse, on parle du rock, on parle de la zumba. Le yoga, c'est pareil. Aujourd'hui, on a mis ça dans un gros gloubi-boulga, mais en réalité, il y a énormément de formes et de pratiques et d'écoles de yoga différentes qui vont s'adapter à chacun. Alors, je comprends que, vu de l'extérieur, il puisse y avoir une exaspération. D'abord parce qu'il y a un effet de mode, en plus parce qu'il y a énormément de codes et d'images très codifiées qui sont attachées au yoga. On imagine qu'il faut être un grand méditant, vivre pieds nus, manger des graines et porter un turban, si je résume. En réalité, c'est pas ça, c'est simplement un art de vivre dans lequel on respire, on se connecte à soi-même et on donne plus d'espace et de mouvement à un corps. Après, à chacun d'adapter et de choisir sa pratique. Il y a des yoga très dynamique pour ceux qui ont beaucoup d'énergie, d'autres qui veulent des choses très douces, très lentes. C'est vraiment, je crois qu'on est un peu, on est à la fois gâté par le fait que tout le monde voit du yoga partout, et tant mieux, parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que le jour où tout le monde pratiquera le yoga, le monde sera plus en paix. Et on est aussi desservi par toutes les images qu'on voit. Donc, et toutes les images, notamment instagrammables, et on a l'impression qu'il faut pouvoir mettre le pied derrière la tête pour pouvoir faire du yoga. Ce n'est pas du tout la réalité. C'est vraiment, il faut se rappeler que yoga, en sanskrit, le mot yuj, qui est la racine du mot yoga, ça veut simplement dire l'union. Et c'est l'union du corps et de l'esprit. Et comme tout le monde, on vit tous un peu comme des passagers clandestins de nos corps. Et le yoga, ça permet simplement de réhabiter son corps, de ressentir. C'est de se connecter à ses sensations, à ses émotions, à son corps, et d'être un peu son propre médecin, finalement. Son propre médecin du corps et de l'esprit.
Parce qu'on en tire des bienfaits réels au niveau de la santé.
Absolument. De la santé et du mieux-être. De se sentir bien dans son corps, de se sentir plus joyeux, de se sentir plus reposé, plus apaisé, plus en équilibre.
Ouais. Vous avez ouvert votre premier centre en 2013. Vous imaginiez en ouvrir autant à l'époque, c'est-à-dire que vous avez plusieurs salles dans le sud de la France, plusieurs évidemment à Paris. Vous aviez senti ce mouvement qui était en train de se passer, ou vous-même vous avez été surprise?
Non, ce serait très présomptueux de dire que je l'avais senti. Moi, en plus, je ne programme jamais rien. J'avance au fil de l'eau et par intuition et instinct. Et je crois que je suis arrivée juste au moment où le marché commençait à s'ouvrir un peu, et avec une offre qui cassait les codes, justement, pour rendre accessible à tous le yoga et non pas qu'aux initiés. Mais je ne pensais évidemment pas que ça allait devenir 7 ans plus tard ce que c'est devenu, puisqu'aujourd'hui on a une académie, on fait des formations, on crée des événements, on a une plateforme vidéo, le TIC Yoga Play, qui tourne énormément avec 300 vidéos. Donc je ne pensais pas qu'on allait vers ça, et d'ailleurs je ne pensais pas moi-même qu'on allait vers une digitalisation de l'offre qui s'est énormément accélérée avec le confinement. Et je crois qu'elle va rester parce qu'il y a une vraie demande. Ce que vous disiez au début, les gens ont pris goût finalement à la pratique du yoga à la maison, du yoga in extenso, du yoga et de la méditation. Et nous, on a beaucoup d'élèves qui nous disent « Mais est-ce que vous allez continuer les cours en ligne après l'été, après le confinement ?» Et oui, on va continuer, c'est intéressant.
La réponse est oui, et ce sont des cours qui sont accessibles puisque c'est 10 euros, c'est ça, pour une séance en ligne. Donc c'est
avec une réelle interaction, accessible. C'est-à-dire que on peut parler au prof, le prof peut vous voir, vous corriger. C'est pas une vidéo froide, c'est vraiment une c'est vraiment cours en ligne, et il y a beaucoup de personnes qui ont un réel plaisir à avoir ce choix d'être vu ou de ne pas être vu. Il y a vraiment cette notion du regard et du jugement qu'on coupe quand on coupe la caméra. C'est incroyable.
C'est ce qui fait, en fait, peut-être que ça, d'un seul coup, les gens se sont dit, moi aussi, effectivement.
Moi aussi, je peux le faire. Et qu'importe si je touche pas mes pieds. Ouais. Exactement.
Et tout le monde peut le faire ou pas?
Écoutez,
même si on est très gros, très maigre, très vieux.
Mon beau-père, qui est aussi mon associé dans les Tigres et qui a 74 ans, s'est mis au yoga il y a 2 ans. Donc, tout le monde peut le faire. Nous, on a des élèves âgés. C'est accessible, quel que soit son corps, dans la mesure où on respecte son propre schéma corporel. Vous savez, le yoga, ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie confrontation à son ego. Et donc, c'est accepter d'être qui on est dans le corps que l'on a, avec l'énergie que l'on a, le niveau de fatigue ou le dynamisme que l'on a. On peut avoir un corps super fit, musclé, tonique, et pour autant ne pas avoir d'énergie et ne pas être capable de suivre une séance de yoga. Et à l'inverse, moi j'ai des pratiquants, là je rentre d'une retraite, c'est pour ça que je suis là où je suis, et j'avais un couple qui avait 71 et 72 ans, et ils ont fait tous les cours alors que c'était de l'ashtanga. Donc c'est vraiment un moment justement où on lâche des jugements, où on lâche des a priori, et s'autoriser à ça, et c'est permis parce qu'il n'y a pas de résultat à attendre. Vous savez, c'est une des rares pratiques, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de spectacle de fin d'année, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien à attendre. On ne vous demande rien, on ne vous demande pas de gagner un match, on ne vous demande pas de gagner une épreuve, et le fait d'avoir cette... finalement, ce moment gratuit, entre guillemets, pour soi, sans rien à attendre, c'est un moment qu'on s'offre à soi-même. Donc, c'est justement le moment de ne pas se juger et d'être là où on est bien avec soi-même.
Bon, Daphné nous dit, j'ai voulu en faire l'année dernière parce qu'à mon âge, alors la BF, je ne sais pas ce que c'est, BF, c'est plus fort pour moi, c'est plus pour moi et mes épaules. Ça doit être
abdos fessiers.
Elle dit, j'ai perdu 300 euros, enfin bref, et donc différents niveaux, donc pas possible pour un débutant. Le yoga, on peut s'y mettre à tout âge, vous l'avez dit, même pour les enfants.
Oui, absolument, et il y a des cours pour les débutants, et il y a des cours pour les enfants, bien sûr.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Élodie. Garamond, le tigre yoga,
pratiquez bien cet été.
Oui, on va s'y mettre. Une question pour faire la transition habile avec Jean-Michel Cohen, on peut maigrir en faisant du yoga?
On peut maigrir en faisant du yoga. J'essaye que les gens ne viennent pas pour maigrir, mais on peut maigrir. En tout cas, on est mieux dans son corps, c'est le principal.
On est mieux dans son corps. Jean-Michel Cohen est avec nous. Merci encore, Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Michel Cohen, bonjour.
Bonjour Valérie.
Nutritionniste, médecin nutritionniste, yoga, vous pratiquez ?
J'en ai fait il y a quelques années. J'ai trouvé ça plutôt intéressant pour la souplesse et en fait pour la détente. Mais après, bon, c'est quand même, il faut s'y astreindre assez régulièrement. Donc quand vous avez un planning chargé et un coup de flemme, vous ne le faites pas. Mais je trouve ça intéressant, le yoga,
Oui, ça apporte des choses. Alors avec vous, on va parler de notre alimentation, comme toujours avec vous, pour des bons conseils pour cet été. Comment ne pas faire ? Alors on sait un petit peu les cacahuètes et tout ça, mais il y a peut-être d'autres conseils un petit peu plus malins que vous pouvez nous donner. Je rappelle que vous avez publié, entre autres livres, l'Almanach Cohen 2020, mes conseils pour vivre en bonne santé toute l'année. Également votre site, Savoir Maigrir. Alors on fait quoi cet été pour pas grossir et éventuellement perdre les 2,5 kg qu'on a pris pendant le confinement?
Il n'y a pas d'autre solution que de contrôler son alimentation, sauf que pendant les vacances, c'est quand même un peu difficile parce qu'on est captivé par la convivialité et puis par la détente. Ça veut dire qu'on a on a une capacité à se concentrer sur le contrôle alimentaire qui est moins forte que pendant l'année, simplement parce qu'on est détendu. J'ai d'ailleurs observé qu'un des vrais problèmes, c'était les petits déjeuners. En allant me promener à la boulangerie de la campagne à côté de laquelle je suis, il y a mon petit-fils qui vient nous voir. En allant me promener, j'ai remarqué que les gens achetaient vraiment beaucoup, beaucoup de viennoiseries. Ça veut dire que c'est vraiment la période où les gens vont vraiment se lâcher au moment du petit-déjeuner. Et en fait, ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre de petit-déjeuner aussi fourni, qui vont s'arrêter un peu comme pendant la période du confinement où le rythme alimentaire il va être finalement assez régulier, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner, et même pour certains, le goûter avec les glaces et le dîner et l'apéritif. Donc, c'est quand même une période de haut danger. La stratégie, pour moi, à mon avis, c'est de faire des brunchs un peu à l'américaine. Ça veut dire de se lever tard parce que c'est les vacances et d'essayer de contracter le petit-déjeuner avec le déjeuner. Donc, finalement, arrêter le petit-déjeuner traditionnel.
Non, moi, je pensais qu'il fallait manger les croissants en plus du burger et tout mettre en même temps. Non, c'est pas ça.
L'idée, c'est le brunch. Vous n'avez pas complètement tort. Le brunch, c'est un peu ça. Mais ça veut dire que quand vous faites un brunch, j'aime pas ce mot parce que c'est anglophone et les Français sont pas toujours d'accord. C'est ce déjeuner, c'est ce déjeuner avec le petit déjeuner. Donc je dirais que les viennoiseries, elles viennent quasiment comme un dessert. Là, on va commencer, on va prendre le café, on va prendre des œufs avec une protéine, que ce soit du fromage, du jambon ou peu importe. Mais enfin, il y a une protéine d'accompagnement pour compléter les œufs. On peut prendre un smoothie. Ou un grand verre de jus de légumes, et on va finir avec les viennoiseries en guise de dessert, tout ça accompagné par une boisson. Alors, aux États-Unis, c'est du champagne, mais nous, on peut se prendre un verre d'eau. Je sais que ce n'est pas appétissant, mais en même temps, on ne peut pas tout avoir. Hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas et tenter de maigrir et en même temps avoir une nourriture de première qualité.
Oui, et le plus dangereux, c'est quoi ? C'est l'alcool en termes de calories ? Enfin, de toute façon, l'alcool est à consommer. L'alcool est à consommer de toute façon avec modération, mais comme vous l'avez dit, quand on est avec des amis, convivialité oblige, il y a l'apéro, on boit du vin à table, etc. C'est le grand danger de l'été ?
C'est les deux points noirs. Le point noir, c'est les goûters à base de glace. Ça veut dire vers 4-5 heures de l'après-midi, tout le monde va prendre des glaces. Et là, j'avais déjà expliqué qu'il y a des vraies différences quoi, dans les glaces. Vous avez les esquimaux glacés avec du chocolat qui sont quand même relativement caloriques. Vous avez les cônes qui ne sont en fait que de la crème glacée entourée par une fine couche de biscuits, mais vraiment très fine. Et vous avez les glaces à l'américaine qui sont une catastrophe. Ça veut dire qu'ils se sont débrouillés à enrichir les crèmes glacées avec en général des produits oléagineux comme noix de pécan, noisettes et compagnie. Donc ça, c'est le moment du goûter. Il est terrible. Les gens se jettent sur les sorbets en croyant qu'ils sont peu caloriques, mais en fait, c'est que du sucre. À la limite, le mieux, c'est finalement ces cônes ou bien ce sont ces cornets glacés là, qu'on trouve en grande surface ou deux boules de crème glacée qu'on trouve chez les glaciers. Ensuite, après, il va y avoir l'apéritif. Et les Français, on n'a pas beaucoup d'imagination. Je ne sais pas pourquoi. C'est en général toujours du vin rosé avec des oléagineux. Un mot pour dire que vin rosé, vin blanc, champagne, vin rouge, c'est exactement la même chose en termes d'apport nutritionnel. Voilà, c'est du vin, c'est-à-dire il y a de l'alcool et en même temps, il n'y a pas de sucre, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas de sucre dans le vin, à part les vins liquoreux. L'alcool se transformera en sucre, mais il n'y a pas de sucre dans ces vins. Et puis, ça va être les cacahuètes, les chips et les amandes. Ça, c'est quelque chose qui a été probablement inventé pour nous faire du mal, parce que plus vous en mangez, plus vous avez envie de boire. Et la conjonction des deux, c'est qu'en fait, quand vous avez pris 30 à 40 grammes de noisettes ou d'amandes, ça va représenter environ 250 calories. Avec un ou deux verres de vin, vous êtes déjà à 500-600 calories, c'est-à-dire presque l'équivalent d'un repas pour une femme. Donc, il faut apprendre à changer. Vérine, petite brochette de légumes, de crevettes, de fromage, éventuellement des petits canapés. On a oublié ça, je ne sais pas pourquoi. Avant, c'était la grande mode. Mais des tout petits bouts de pain sur lesquels on va mettre une rondelle d'œuf, un petit morceau d'anchois. Je vous sens salivé, là, je ne sais pas pourquoi.
Oui, c'est bientôt l'heure de déjeuner, donc absolument. donc oui, changer cette habitude de l'apéritif, mais l'alcool, il n'y a pas de différence. Il vaut mieux boire
Ce que vous pouvez dire à vos auditeurs, c'est qu'il y a deux alcools qui posent un problème. Ce sont les cocktails, d'une façon générale, parce qu'on est incapable de se rendre compte de la teneur en alcool de ces produits. Et les alcools forts, évidemment, c'est-à-dire tous ces produits, vodka, whisky, gin et compagnie, qu'on mélange avec des glaçons, parce que l'eau dilue la sensation alcoolisée. Et donc, on est beaucoup moins en alerte avec ces produits. Je pense que le meilleur, ça reste quand même le champagne, parce qu'il y a un côté festif, ça a la même valeur calorique que le vin blanc ou le vin rosé, si vous avez envie. C'est devenu très bien, le vin rosé. Il y a des années de ça, c'était un petit vin. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de vin rosé de qualité, mais à votre goût, hein, faites ce qui vous fait plaisir.
Et si on met beaucoup de glaçons ?
Est-ce que ça vous faites ce que Régine avait inventé, vous vous souvenez, Régine, la chanteuse, la piscine, avait inventé ce qu'on appelait la piscine, c'est-à-dire qu'elle prenait un grand verre de champagne et en fait elle mettait beaucoup de glaçons à l'intérieur, si bien qu'elle prenait un champagne à l'eau. Alors les amateurs de champagne vont hurler, mais ça lui permettait de pouvoir tenir longtemps avec un long drink et en même temps de ne pas trop s'alcooliser. Oui, effectivement, si vous mettez des glaçons, bah, vous diminuez la teneur en alcool et vous avez un verre qui va durer plus longtemps.
Est-ce que vous conseillez de faire des journées de compensation, c'est-à-dire quand on a fait un excès une journée, le lendemain, d'essayer de récupérer, et alors de façon peut-être moins drastique qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire dites-nous comment on fait pour récupérer sans se priver complètement.
Vous avez deux stratégies pendant les vacances. Celle qu'on a donnée à tous les abonnés de notre site Savoir Maigrir, c'est de faire ce qu'on appelle le 50-50, c'est-à-dire qu'un des deux repas sera à tous les jours contracté. Mettons que ce soit le repas du midi, qui est un repas facile. On va prendre une viande ou un poisson avec des légumes et un fruit, point barre, sans aucune matière grasse. Sans aucune matière grasse. Et l'autre repas, vous allez vous lâcher un peu plus. Donc finalement, vous protégez un repas avec un autre repas. Et la deuxième stratégie, ça consiste à faire des remboursements. Ce qu'on appelle les remboursements, ça consiste à supprimer le repas, un des deux repas, mais on va le remplacer par un repas qui va vous couper l'appétit. Alors la meilleure stratégie pour ça, c'est de mettre soit 3 blancs d'œufs durs, c'est-à-dire 3 œufs durs dont vous ne mangez pas le jaune, soit 2 à 3 tranches de jambon de volaille parce que c'est très maigre, de grignoter des crudités, de ne pas mettre de sauce avec. Vous prenez des radis, du chou-fleur cru, du fenouil, des tomates cerises, etc. Et de prendre un fromage blanc à 0%. C'est vraiment un repas juste pour tenir jusqu'à l'autre repas. Voilà, Et donc, cette technique de remboursement, elle permet aux gens de s'épanouir. Ça veut dire de ne pas considérer les régimes comme une épreuve de force et se dire « ça va être terrible parce que j'ai restreint mon alimentation ».
Alors, une question, c'est la période des salades. Est-ce que c'est ce qu'il y a de moins calorique ? Alors, attention aux salades. Je me souviens d'une leçon que vous nous aviez faite sur les salades, en particulier sur les sauces.
Bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la salade, ce qui pèse le plus lourd, c'est l'assaisonnement. L'assaisonnement est la mode à l'heure actuelle des graines et de l'avocat. Ce sont des bons produits. Ça veut dire l'avocat comme les graines, ce sont des bons produits. Mais quand vous faites une salade, vous vous déculpabilisez en mettant à l'intérieur de la salade des tomates, des artichauts, des œufs durs, du thon. Bref, des produits qui ont une petite densité calorique, qui n'amènent pas beaucoup de calories. Donc, vous vous déculpabilisez comme ça. Et ensuite, vous allez vous tromper. Quand vous allez mettre dans cette salade d'abord des assaisonnements, je rappelle qu'une seule cuillerée à soupe d'huile, c'est 100 calories. Donc, quand vous en avez mis 3 ou 4, vous avez mis l'équivalent d'un sandwich à la viande. Et deuxième chose, quand vous rajoutez des graines, des noix, des pignons, des noix de pécan, etc., c'est 700 calories au 100 grammes, c'est-à-dire quasiment la même chose que l'huile. Et c'est comme ça que vous plombez une salade. Vous la plombez au travers de vos ajouts, en général de graines, et de vos assaisonnements avec beaucoup d'huile à l'intérieur.
Question sur les barbecues. Est-ce que c'est la meilleure cuisson, la plus saine ou pas ? C'est-à-dire, par exemple, des chipolatas. Alors... La question qui m'a été posée, c'est est-ce que des chipolatas à la... Oui, moi aussi, ça m'a fait rire. Je ne vous dirai pas qui m'a posé la question. Des chipolatas à la poêle, c'est moins calorique que des chipolatas au barbecue. Enfin, ou l'inverse.
C'est quasiment équivalent parce qu'il y a une espèce de fantasme qui consiste à croire que les 2-3 grammes de graisse qui vont couler de la chipolata sur les braises vont permettre d'alléger la chipolata. Je rappelle que c'est quand même la saucisse la plus calorique, hein. Avec, curieusement, les saucisses de volaille qu'on trouve qui sont vraiment un trompe-couillon, je dirais, parce que souvent les gens achètent ce qu'on appelle les saucisses de volaille. En fait, pour qu'une saucisse soit bonne, il faut qu'elle soit moelleuse. Pour qu'elle soit moelleuse, il faut rajouter de la graisse. Alors que vous mettiez du bœuf, de la volaille, ce sera exactement la même chose. Donc, les chipolatas sont les saucisses les plus riches. Et vous les cuisez à la poêle ou au barbecue, c'est exactement la même chose. C'est une affaire de goût et de proportion. Après, on ne peut pas interdire aux gens à tout manger. Vous verrez que dans le prochain livre qui sortira en août, je vais recommander le jambon de Parme. Donc, c'est simplement… Eh oui. Le jambon de Parme a des caractères… Oui, vous pouvez en manger cet été. L'avantage, c'est que ça se mange en tranches fines. Le jambon de Parme, il n'a pas les mêmes graisses que celles du cochon traditionnel puisqu'il est nourri avec des châtaignes. C'est pour ça.
Et le pata negra, c'est pareil, le jambon espagnol,
c'est pareil,
le jambon qu'on trouve dans le sud-ouest.
Il est nourri avec des noisettes, et ce sont donc, ça veut dire qu'on a transformé les graisses de l'animal, et qu'au lieu d'avoir des graisses saturées de mauvaise qualité, on est passé sur des oméga 3. Et donc, ce sont des produits à recommander qui sont intéressants pour notre santé. Vous verrez, vous aurez plein de surprises.
Eh ben, écoutez, on vous réinvitera pour en reparler. Merci beaucoup, Jean-Michel Cohen. Très bon été à vous.
Merci.
Faites
vous
des
aussi.
Bonnes salades et des petits légumes. On le rappelle, l'alcool est à consommer évidemment avec modération et est un des aliments les plus caloriques et dangereux pour votre régime. Voilà. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.